Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, rencontré hier à l'Assemblée nationale entre le bureau de la Chambre basse du Parlement et certains membres du gouvernement sous-minois en prélude de la rentrée parlementaire prévue le 15 mars prochain. Ces échanges ont porté notamment sur l'exécution du budget de l'État. En Ituri, l'entrée de l'armée ougandaise désormais soumise à l'aval de la hiérarchie. Selon l'administrateur militaire du territoire de Mahagi, cette mesure concerne notamment les postes frontaliers d'Anzida et de Karombo. La baronesse Chapman de Darlington, ministre britannique chargé du développement international et de l'Afrique, a visité cette semaine la région de Benio-Nord-Kivu. Objectif, s'imprégner de la situation humanitaire dans cette partie du pays et aussi mesurer l'impact de l'aide britannique. Que retenir de cette mission? La réponse dans cet entretien qu'elle a accordé à Radio Okapi. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du Journal du Matin. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, accompagné des autres membres du bureau, a reçu ce jeudi à Kinshasa certains membres du gouvernement sous-minois. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des consultations engagées en prélude à la rentrée parlementaire prévue le 15 mars prochain. Ces échanges ont porté notamment sur l'exécution du budget de l'État. Parmi les personnalités reçues figurent le vice-premier ministre et ministre du budget Adolphe Mouzito, ainsi que la vice-ministre des Finances Grace Yamba Kazadi. Plus de détails avec Grace Amzati Masanzi.
Selon le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Joly, ces consultations ont permis de faire le point sur l'exécution du budget au cours du premier trimestre de l'année. Objectif, dégager les grandes tendances, notamment en matière de mobilisation des recettes et d'exécution des dépenses publiques. Le bureau de l'Assemblée nationale a également transmis au gouvernement les attentes du Parlement sur cette question. Jacques Joly rappelle que l'Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, doit veiller au respect strict des règles fixées dans la loi des finances. Autre annonce, l'examen de la loi portant reddition des comptes n'aura plus lieu en septembre. Il interviendra désormais au plus tard le 15 mai. Une mesure qui vise à permettre au Parlement d'exercer un contrôle plus rapproché sur l'exécution du budget de l'État. La question du taux d'exécution des recettes et des dépenses publiques a également été abordée. Le Parlement insiste notamment sur la nécessité d'assurer plus de fluidité dans l'exécution du budget, en particulier pour garantir la paix régulière des agents de l'État. À en croire Jacques Joly, à travers ces consultations, le bureau de l'Assemblée nationale prépare activement la prochaine rentrée parlementaire. Un avant-projet de calendrier a déjà été élaboré en concertation avec le gouvernement afin de garantir un travail parlementaire efficace et apaisé, dit-il.
Restons dans le Parlement. Le sénateur Norbert Basengezi Kantitima a déposé ce vendredi à Kinshasa au président du Sénat le projet de la loi électorale modifiée. Cet élu du Sud Kivu et ancien vice-président de la Commission électorale indépendante estime que cette loi électorale adoptée en mars 2006 et modifiée à trois reprises présente encore quelques failles qu'il faut améliorer. Il fustige notamment le fait de voir certains candidats se présenter à plusieurs scrutins à la fois pendant le même cycle et dans la même circonscription ou dans plusieurs circonscriptions, d'où il propose l'unicité de candidature. On écoute le sénateur Norbert Basengezi Kantitima qui parle des innovations qu'apporte cette loi dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Exemple, quelqu'un qui peut être candidat président de la République, quelqu'un qui peut être à la fois député national, provincial, mais aussi conseiller communal. L'innovation que nous apportons, il faut l'unicité des candidatures. C'est porter candidat à un seul scrutin. Mais si, pendant le même cycle, vous avez échoué à un scrutin, la possibilité vous est donné d'aller encore compétir pour les cycles suivants. Le deuxième point d'innovation, c'est l'article 10 où l'on parle des cas d'inéligibilité pour les fonctionnaires, mais on ne dit rien en ce qui concerne les membres du gouvernement provincial ou les membres du gouvernement national. Moi-même, j'ai été candidat en 2011, j'étais ministre de l'Agriculture. Quand ils viennent, même s'il y a un article qui prévoit à ce que l'on ne puisse pas utiliser le matériel de l'État, on peut laisser le véhicule, mais au reste ministre, au reste gouverneur et la population vous respecte comme tel par rapport à un enseignant du village, par rapport à un infirmier, par rapport à un membre de la société civile ou à un paysan qui veut compétir avec vous.
Et puis la voix des femmes et leur représentativité au plus haut poste de gouvernance en République démocratique du Congo va être davantage renforcée grâce à un partenariat signé entre le ministère des Gens, Familles et Enfants et la Fondation Friedrich Ebert. Conclu ce vendredi 6 mars 2026 à Kinshasa, cet accord vise notamment à promouvoir l'égalité des sexes et à développer plusieurs projets sociaux en faveur de femmes. Jules Mystère Bilanda nous en dit plus.
La signature de cette convention est intervenue après l'inauguration officielle du nouveau bâtiment de la Fondation Friedrich Ebert. La ministre du Genre, Famille et Enfants ainsi que les représentants de la Fondation Constantin Grande ont procédé à la formalisation de ces partenariats destinés à renforcer la présence et les rôles des femmes à tous les niveaux des responsabilités. On écoute Constantin Grande, représentant de la Fondation Friedrich Ebert.
Cette convention que nous venons de signer avec le ministère de Genre, Famille et Enfants porte essentiellement sur un partenariat à partir d'aujourd'hui pour les prochaines années, sur des lignes générales de coopération, bien sûr, de renforcement de capacités également de volet international pour renforcer la voix de la femme ici en RDC.
Présente à cette cérémonie, Jeanne Samba, représentant du Comité national des femmes en développement s'est réjoui de cette collaboration.
Nous avons salué ce partenariat entre le ministère du Genre et la Fondation Friedrich qui donne un espace pour que les femmes puissent mettre ensemble leurs énergies afin que la femme soit vraiment dans cette gouvernance.
À quelques heures de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, Constantin Grande a également rendu hommage aux femmes qui se sont battues pour l'égalité des sexes.
Je le disais en titre, la coordination de la société civile du territoire des Mahagi se félicite de la décision des autorités provinciales conditionnant désormais l'entrée des troupes de l'armée ougandaise à une autorisation préalable de la hiérarchie. Dans une correspondance de l'administrateur militaire du territoire, cette mesure concerne notamment les postes frontaliers d'Anzida et de Karombo. Pour l'heure, aucune explication officielle n'a été donnée sur les raisons de cette instruction par l'autorité territoriale contactée par Radio Okapi. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
Dans une correspondance officielle datée du 4 mars 2026, le colonel Jacques Dissano a instruit les responsables locaux des services de sécurité et de migration de ne plus autoriser l'entrée des militaires de Uganda People's Defense Force, UPDF, ni leurs équipements par les postes frontaliers précités. La note administrative précise que toute entrée d'éléments de l'armée ougandaise devra désormais obtenir l'aval de la hiérarchie selon une instruction du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, une mesure saluée par la coordination de la société civile de Mahagi qui y voit une question de souveraineté nationale. Innocent Wabekoudou.
Lorsque une force doit entrer sur un sol congolais, les grandes personnalités du pays doivent échanger avec l'autre côté pour permettre à ce que l'entrée soit d'une manière officielle.
Les autorités de Kinshasa ont toujours affirmé que la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais s'inscrit dans le cadre de l'opération Shujaa menée conjointement depuis plusieurs années avec les forces armées de la RDC contre les rebelles des ADF dans les territoires de Beni au nord Kivu et du Rumu en Ituri. Cependant, la présence de ces soldats étrangers dans les territoires de Djougou et à Bunia continue d'alimenter les spéculations au sein de la population. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Dans les provinces du nord Kivu et de l'Ituri, la MONUSCO continue ses interventions et opérations pour protéger les civils et renforcer la sécurité face aux groupes armés. Plusieurs missions sont menées, patrouilles, opérations conjointes avec les FARDC et accompagnement du désarmement, démobilisation et réinsertion DDR des combattants. Les casques bleus restent pleinement mobilisés pour la paix et la stabilité dans la région. Suivez les condensés des actions récentes avec le colonel Charles Ijoua, porte-parole militaire de la MONUSCO, au micro de Martial Papimukeba.
En effet, au Nord Kivu, le 4 mars 2026, dans le cadre de l'opération Umoja, les casques bleus de la force d'intervention, en coordination avec les FADC, ont patrouillé le long de l'As Mavivi, Ndjité, Mbaou, Muzuku, Mandoubi et dans les zones de jungle du territoire de Beni afin de contenir les activités des groupes armés et assurer la sécurité des civils. En Ituri, le 1er mars 2026, des éléments de Codeco ont attaqué un éleveur à Fataki lors d'une tentative de vol de bétail, blessant plusieurs animaux. Une patrouille de la MONUSCO est intervenue pour sécuriser la zone, disperser les assaillants et escorter les civils avec leur bétail. La base de Fataki est restée en alerte et a poursuivi ses patrouilles pour prévenir toute nouvelle attaque. Toujours le 1er mars, l'équipe d'engagement féminin bangladaise, en coordination avec la base de Drodro, a mené des activités de sécurisation dans les marchés de Lagou et Masumbuko, permettant aux habitants de poursuivre les activités commerciales en sécurité.
Le gouvernement passe au scanner l'exécution du programme de coopération sino-congolais sur la période 2008-2024. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC a lancé ce vendredi l'audit technique et financier de ces vastes projets. En quoi consiste cette initiative de l'État congolais? Tentative de réponse dans ce reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Cet audit tire son fondement de la 25 article 1er, alinéa 13, signé en 2023 dans le cadre de la renégociation du programme sino-congolais, explique le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration. Devant la presse, Freddy Yodichimbo indique que cette initiative vise à renforcer la transparence, la crédibilité et la redevabilité dans la mise en œuvre du partenariat entre les parties chinoises et congolaises. Il souligne que cet exercice doit couvrir l'ensemble des dimensions structurantes du programme sino-congolais, notamment les volets miniers, financiers, fiscaux et contractuels. À travers cet audit, le gouvernement congolais entend déterminer les niveaux réels d'exécution du programme, précise Freddy Yodichimbo.
Un tel exercice constitue un instrument essentiel de bonne gouvernance. Il permettra en effet de dresser une photographie claire et objective du niveau réel d'exécution du programme depuis son lancement jusqu'à ce jour.
Pour rappel, dans ses partenariats signés en 2008, les consortiums chinois s'étaient engagés à financer et construire en RDC des infrastructures de base, notamment routes, hôpitaux, écoles, en échange des droits d'exploitation sur certaines ressources minières congolaises, notamment les cuivres et les cobalt.
Ce gelé se poursuit dans la région de Beni, Butembo et Lubero Nord Kivu, où la hausse des prix des produits de première nécessité inquiète la société civile locale. Son président John Banyene a saisi la première ministre ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement. Dans une lettre ouverte rendue publique ce vendredi, il plaide pour la suspension de certaines taxes afin d'alléger les fardeaux qui pèsent sur la population déjà affectée par la crise sécuritaire et humanitaire. Il s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Actuellement, il s'observe une montée vertigineuse de prix des biens de première nécessité au moment où, ces derniers temps, la population n'a aucune assistance, si ce n'est que des personnes de bonne volonté qui aident à se déplacer là, et ils sont dans des familles d'accueil. Et quand il y a les hausses de prix, c'est vraiment une charge qui demande au moins la solidarité nationale. Et c'est pour cette raison que nous avons demandé à la première ministre, chef du gouvernement, de voir dans quelles mesures du possible ils peuvent vraiment suspendre temporairement certains impôts, taxes et redevances pour tant soit peu alléger la misère de la population. Parce que vous allez voir sur le marché, un bidon d'huile végétale qui coûtait $30, actuellement c'est à $34-35. Un sac de riz qui coûtait $18, aujourd'hui c'est $20. Et le carburant, un litre s'achetait à 3000 francs, actuellement c'est à 3500, et chez les autres qu'on appelle Kadhafi, c'est 4000. C'est une situation que cette population ne saura pas vraiment prendre en charge.
Nous n'avons pu obtenir la réaction des autorités compétentes à ce sujet. Ici à Kinshasa, le réseau d'organisations des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne Redosic a relancé ce vendredi la campagne de sensibilisation des jeunes de la capitale sur les violences basées sur les genres en communauté ainsi que sur la planification familiale. À cette étape, plus de 200 jeunes filles et garçons, membres des associations et mouvements des jeunes de la commune d'Engaba ont été sensibilisés dans l'objectif de promouvoir l'adoption des comportements responsables en matière matière de sexualité et de planification familiale chez les adolescents et les jeunes. Pour la coordonnatrice de la section genre du RODESIC, cette sensibilisation cadre avec la volonté de transformer la communauté en acteur de changement afin de briser les silences devant ces différentes violences à travers une information adaptée et l'orientation vers des services de santé de qualité. Aussi, de redynamiser des mécanismes communautaires et scolaires de prévention, des signalements et des prises en charge des cas de violences basées sur le genre à Kinshasa. Marceline Kisita est au micro de Radio Okapi.
Nous sommes venus parler aux jeunes de Gaba, jeunes filles et garçons, sur les violences basées sur le genre ainsi que la planification familiale. Parce que c'est un facteur qui est très important, surtout pour la jeune fille. Hein. Souvent, c'est la jeune fille qui est plus victime par rapport aux garçons. On a plus vraiment martelé sur les violences basées sur le genre, les sortes de violences, les causes, toutes les conséquences. On a plus vraiment martelé sur les conséquences qui peuvent se répercuter dans leur vie courante. Et puis nous avons touché aussi le problème de la planification familiale qui implique le consentement entre les époux pour se mettre d'accord sur le nombre d'enfants à avoir et avec quel espace. Et de là, nous avons insisté sur le changement de comportement qu'ils doivent adopter en tout cas en tant que jeunes pour que notre société demain puisse être une société égalitaire.
Organisé par les réseaux d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne RODESIC, cette campagne connaît l'appui de l'organisation Marie Stop International MC et s'est tenue dans les communes de Ngaba, Massina et Mongafula où plus ou moins 600 jeunes, filles et garçons, ont été touchés en raison de 200 jeunes par commune.
Actualité internationale.
La guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran dure depuis maintenant presque une semaine. Le président français Emmanuel Macron l'a encore affirmé jeudi 5 mars, la France ne fait pas la guerre au Moyen-Orient. Et en même temps, le porte-avions Charles de Gaulle vient d'arriver en Méditerranée. Quelle est la position de la France dans ce conflit?
L'invité.
La baronesse Chapman de Darlington, ministre britannique chargée du développement international et de l'Afrique, a visité cette semaine la région de Beni au Nord Kivu. Objectif, s'imprégner de la situation humanitaire dans cette partie du pays et aussi mesurer l'impact de l'aide britannique. Que retenir de cette mission? Jennifer Chapman répond aux questions de Marc Marofimbo.
Jennifer Chapman, vous êtes ministre d'État britannique. Vous venez d'achever une visite de 2 jours à Beni, une zone marquée par une crise sécuritaire et humanitaire persistante. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la situation humanitaire dans l'est de la RDC après ce que vous avez constaté sur le terrain?
Well, I've seen it for 2 days, obviously that's...
Je ne suis ici que depuis 2 courtes journées et ce n'est pas la même chose que d'y vivre en permanence. Je sais donc que ce que j'ai vu n'est qu'un aperçu de la réalité, mais mon impression est que c'est une très belle région du monde. Je suis honorée que les habitants aient été si ouverts, accueillants et honnêtes avec moi au sujet de leurs expériences. Cela a été extrêmement important pour moi de pouvoir les entendre, d'écouter et de comprendre ce que vivent les gens, en particulier les femmes survivantes des violences sexuelles et que j'ai pu rencontrer. C'était quelque chose que je tenais vraiment à faire et je suis très heureuse d'en avoir eu l'occasion. Vous m'avez posé une question sur la situation humanitaire et elle est évidemment grave. Je suis heureuse que le Royaume-Uni puisse être présent ici. Nous avons annoncé des financements supplémentaires au cours de cette visite, mais je n'ai aucun doute sur le fait que la seule solution durable à tout cela, c'est la paix. Et cela fait beaucoup, beaucoup trop longtemps que cette partie du monde n'a pas connu la paix.
Bien, le Royaume-Uni soutient plusieurs programmes humanitaires dans l'est de la RDC, notamment dans les secteurs de la santé et de la protection. Concrètement, comment cette aide contribue-t-elle à sauver des vies et à répondre aux besoins urgents des populations affectées par les conflits et les déplacements?
Ce que j'ai entendu, c'est que ces services sont extrêmement importants. Les femmes que nous avons rencontrées ce matin m'ont expliqué ce qu'elles ont enduré, puis elles m'ont parlé de l'importance pour elles d'avoir un endroit sûr où aller, d'avoir du soutien, des activités, une communauté, la possibilité d'apprendre de nouvelles compétences et de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Cela leur permet d'éviter certaines activités dangereuses, par exemple, aller au champ, comme elles le disent. Elles savent que ce n'est pas sûr pour elles. Nous leur offrons donc un choix, un certain contrôle sur leur vie. Et je pense que si l'on veut une paix durable, il faut que les femmes soient impliquées, que les communautés soient fortes et que les gens aient un sentiment d'autonomie dans leur propre vie.
Lors de votre séjour, vous avez mis l'accent sur les femmes et les filles victimes de violences sexuelles liées au conflit. Pourquoi était-il important pour vous de rencontrer directement les survivantes et d'observer les services de santé sexuelle et reproductive en situation d'urgence?
Oui, vous avez raison. Nous avons travaillé sur les questions de santé hier. J'ai pu visiter l'hôpital des Bénis et parler à des femmes qui recevaient des soins prénataux ainsi qu'à d'autres femmes qui venaient d'accoucher. J'ai pu discuter avec elles de leurs expériences et des soins nécessaires pour accoucher en toute sécurité ainsi que de toutes les questions liées à l'hygiène, au risque de contamination, etc. et de l'importance cruciale du soutien médical. Après la naissance aussi, afin de garantir que les femmes soient en bonne santé et puissent bien s'occuper de leurs enfants. Cela a été très enrichissant pour moi. Nous avons également vu les travaux réalisés sur la contraception et nous venons d'annoncer 6 millions de livres supplémentaires pour l'UNFPA, car je crois profondément que les femmes doivent pouvoir décider elles-mêmes du moment où elles souhaitent avoir leur premier enfant et du temps qu'elles souhaitent laisser entre chaque naissance pour leur propre santé. C'était très important de pouvoir rencontrer les bénéficiaires et d'écouter les personnes qui fournissent ces services. Pendant cette visite, nous avons aussi pu observer le travail du CICR auprès des personnes blessées par les conflits. C'était extrêmement émouvant et instructif. Ce qui est précieux dans une visite comme celle-ci, c'est que je peux voir de mes propres yeux ce dont j'avais connaissance par des lectures ou des rapports. Être ici, rencontrer les personnes concernées, entendre leurs témoignages, c'est à ces moments-là que l'on comprend vraiment. Et c'est pour cela que je tenais tant à venir.
Et enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux populations de l'Est de la RDC ainsi qu'aux autorités locales et partenaires humanitaires concernant l'engagement du Royaume-Uni en faveur de la paix, la protection des civils et de la résilience des communautés?
Mon message est que nous sommes ici et nous restons à vos côtés. Nous savons que nous ne pouvons pas résoudre seuls cette situation et qu'aucune solution extérieure ne peut régler cela. La solution est en grande partie politique et elle devra être obtenue par la diplomatie et la pression politique. Cela arrivera, comme cela arrive toujours à un moment donné. Mais mon message principal est que nous sommes là. Je ne me fais aucune illusion sur l'ampleur des besoins ni sur les souffrances que les populations ont dû endurer. Les coûts humains pour les habitants de l'Est de la RDC depuis des décennies est difficile à saisir. Je suis donc très heureuse d'être venue car cela m'aide vraiment à comprendre et cela signifie que nous pouvons faire des meilleurs choix et exercer la pression nécessaire au niveau international également. Le monde devrait porter beaucoup plus d'attention à l'Est de la RDC qu'il ne l'a fait jusqu'à présent.
Jennifer Chapman, merci.
C'était notre invitée Jennifer Chapman qui s'entretenait avec Marc Marofimbo et c'est ce qui met fin à cette édition du Journal du Matin coordonnée et supervisée par Gilles Mystère Bilandankoumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.